Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 94, Daf Tzadik Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
V'chol mine begadim et toutes sortes d'habits, donc de n'importe quel matériau comme la soie ou autre, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit Asher Aleha Techabes, sur lequel agiclé. Donc le sang du Korban Khatat, tu le laveras. Comme nous l'avons expliqué, cette expression est plus générale. Nous incluons donc tout type d'habit. Yachol shani marbe or mishevshat. Se peut-il que j'inclue aussi la peau dès qu'elle est dépecée, même avant la décision du propriétaire de l'utiliser telle qu'elle. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit Beged. Il parle d'habit. Nous interprétons ce terme de la manière suivante. Ma Beged davar hamekabel tuma. De même que l'habit a cela de particulier, que c'est quelque chose qui est en état de devenir impur. C'est-à-dire, il est non seulement susceptible de devenir impur, mais en fait, il est en état de devenir impur, car Rabbi Lazar compare l'habit dont on parle ici à l'habit dont la Torah parle concernant l'impureté transmise par le reptile mort. Il s'agit donc d'un habit qui est en état de devenir impur. Afkol, ainsi toute autre chose, d'avar hamekabel tuma. S'il s'agit d'une chose, donc d'un vêtement qui est en état de devenir impur, nécessitera un lavage. Mais la peau, dès qu'elle est dépecée avant la décision du propriétaire de l'utiliser telle qu'elle, qui n'est pas encore en état de devenir impur, ne nécessitera pas de lavage. Alors la Gemara demande, Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar? C'est-à-dire, pourquoi, selon Rabbi Yehuda, le terme de Beged Abi veut dire l'habit qui est susceptible de devenir impur, tandis que selon Rabbi Lazar, il s'agit d'un habit qui est en état de devenir impur. Donc où voit-on un type d'habit qui est susceptible de devenir impur, mais qui n'est pas encore en état de devenir impur? Amar Abaye, Matlit Pruta Mishalosh Ikabenayu. La différence entre les deux habits, c'est le cas d'un morceau de tissu ou de chiffon d'une taille inférieure à 3 doigts sur 3 doigts, soit environ 7 cm et demi sur 7 cm et demi. Man de Amar Raoui, l'avis qui dit, donc Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut qu'il s'agisse d'un habit susceptible de devenir impur, Hanami, ce morceau de tissu d'une taille inférieure à 3 doigts sur 3 doigts, est aussi susceptible de devenir impur, de Ibae, car s'il le veut, Hashivale, il peut avoir une intention de l'utiliser pour rapiécer un habit. Dans cette situation, il sera dans un état de devenir impur. Voir le Tosfot dans Masechet Souka d'Af Tetzayin et les notes marginales du Ben Arié qui se trouve à la fin de la Masechet. Mande Amar, tandis que selon l'avis qui dit donc Rabbi Lazar qui dit d'avoir Mekabel Touma, il doit s'agir d'un nabi qui est en état de devenir impur. Hamia, ce morceau de tissu d'une taille inférieure à 3 doigts sur 3 doigts, Lav Bat Kiboul et Toumahi, n'est pas en état de devenir impur car il ne sert à rien. Rava Amar, il propose une autre différence entre ces deux avis. Il dit donc, même s'il s'agit d'un grand morceau de tissu et non pas d'un simple chiffon, Beged Shechishev Aleha Letzura et Kabinayu, la différence entre les deux habits, c'est dans le cas où lorsqu'il confectionnait un habit, il a décidé de broder dessus des dessins. Tant qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas en état de devenir impur. Mande Amaraoui, donc selon l'avis qui dit Rabbi Yehuda qui dit qu'il doit s'agir de quelque chose de susceptible de devenir impur, Hanami, ce morceau de tissu qu'il a décidé de broder dessus, Raoui, est aussi susceptible de devenir impur, dit Ibae, car s'il le veut, Mavtilleh le Marshavte, il peut annuler son intention, et donc de décider de l'utiliser tel quel, dès lors il sera en état de devenir impur. Il est vrai que la Mishnah dans Maseret Kelim Perek Hafe Mishnatet dit qu'une intention ne peut pas annuler une intention antérieure. Ceci ne s'applique que pour un habit ou un ustensile qui était en état de devenir impur, car il avait décidé de l'utiliser tel quel. S'il se ravise et décide de l'arranger différemment, cette intention n'annulera pas son intention antérieure, et il faudra donc une action pour que cet habit ou cet ustensile ne soit plus en état de devenir impur jusqu'à ce qu'il termine sa réparation. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'intention était qu'il doit réparer cet habit, donc il n'est pas en état de devenir impur, une intention ultérieure qui annule son intention antérieure et donc de l'utiliser tel quel, aura le pouvoir de déterminer qu'il s'agit d'un ustensile utilisable et qui est donc en état de devenir impur. Manda amar davar mekabel tuma, mais selon l'avis qui dit, donc Rabbi Lazar qui dit qu'il doit s'agir de quelque chose qui est en état de devenir impur, hashta miha lav bat kiboulet tumahi, maintenant en tout cas, cet habit qu'il a décidé de broder lorsqu'il était en train de le confectionner n'est pas encore en état de devenir impur. Rabba amar, nous noterons que selon la note marginale, il s'agit d'une autre version de l'enseignement de Rava. Utba de Khashiv Allah Lekatsa Ikabenayu. Le point de différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar est le cas d'un tapis qui, lorsqu'il le confectionnait, il a eu l'intention de couper les bords pour l'égaliser. Ce genre de tapis qui était utilisé pour s'asseoir dessus pouvait être soit en peau, soit même en habit comme le tapis qu'on connaît. En fait, donc, tant qu'il n'a pas décidé de l'utiliser tel quel, il n'est pas encore en état de devenir impur. Manda Amaraoui, celui qui dit, donc Rabbi Yehuda qui dit qu'il peut s'agir de quelque chose de susceptible de devenir impur, Hanamiraouya, ce tapis est aussi susceptible de devenir impur, car il peut décider de l'utiliser tel quel. Manda Amar, mais celui qui dit donc, Rabbi Lazar qui dit, Davar Mkabel Touma, il doit s'agir de quelque chose en état de devenir impur, ha, ce tapis qu'il a encore décidé de couper les bords pour l'égaliser, lav mekabla tuma, elle n'est pas encore en état de devenir impur, ad mekatse Allah, jusqu'à ce qu'il termine de couper les bords pour l'égaliser. Vehatania, et effectivement, il est enseigné dans une braïta, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, utzba shechashav aleha lekatsa, un tapis que le propriétaire a décidé d'en couper les bords pour l'égaliser lorsqu'il le confectionnait, tehora, ce tapis est pur, donc n'est pas en état de devenir impur, adchaktiena, jusqu'à ce qu'il termine de couper les bords pour l'égaliser. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, entaun kibus, ne nécessite de lavage que l'endroit où il y a le sang, donc uniquement la tache, et non pas le reste de l'habit. Alors la Gemara demande, menan emile, d'où sait-on ces choses-ci? La Gemara répond, de tanoura banan, car nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Yachol nitaz al miktsad beged. Serait-il possible que si le sang a giclé sur une partie de l'habit, yehe kol a beged taun kibus, que tout l'habit nécessite un lavage dans la cour du sanctuaire? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit dans Vaikravav, dans le paragraphe concernant le sang du korban khatat qui a giclé sur un habit, asher yizé, etc. Ce qui a giclé sur l'habit, il faudra le laver. En fait, le pasouk répète à deux reprises cette expression, pour nous enseigner que lo amarti lecha elamakom dambilvad, je ne t'ai parlé que de l'endroit du sang uniquement. En effet, puisque le pasouk précise à nouveau l'habit sur lequel a giclé le sang, nous comprenons de là que seulement la tache nécessite un lavage. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit davar shehu raoui lekabel tuma, donc ne nécessite de lavage que ce qui est susceptible de devenir impur, etc. La Gemara dit là-dessus stama. Ce passage, rédigé simplement sans auteur, que Rabbi Yehuda suit l'opinion de Rabbi Yehuda, pour nous dire que dès que l'habit est susceptible de devenir impur, même s'il n'est pas en état de devenir impur, il faudra le laver. Raouy l'ekibus, donc lorsque la Mishnah dit et ne nécessite de lavage que ce qui est susceptible d'être lavé, le miutekli, cela vient exclure un ustensile sur lequel aurait giclé du sang, des barres gridaou, qui peut se suffire d'un simple grattage lorsque le sang a coagulé, il n'est pas nécessaire de le laver. Nous noterons qu'en Lashon HaKodesh, le terme de kibous veut dire laver un habit, ce qui suggère le frottement d'un habit, donc d'une partie de l'habit sur l'autre, pour le nettoyer. Ce qui ne s'applique pas pour un ustensile en matière dure, qui, il est vrai, peut se frotter, mais ne se lave pas sous le terme de kibous. On emploiera plutôt le terme de rechitsa, ou plutôt, comme le dit le pasouk, merika ou shtifa, il s'agit de deux sortes de frottement ou de lavage d'un ustensile. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, echad habeged vechad asak, etc. Soit l'habit en tissu, soit l'habit de toile grossière en poil de chèvre, soit même la peau nécessite un lavage. Alors la Gemara constate, les mêmes ras, cela veut dire donc, de or bar kibusu, que la peau est susceptible d'être lavée comme un habit. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un kibous, du lavage d'un habit. Veraminhu, on a opposé à cela une Mishnah dans Masechet Shabbat Davkuf Membet Amudbet. Haïta alav lashlechet. S'il y avait sur un coussin ou une couverture une saleté comme des excréments ou autres. Mais Kancha Besmartout, il aura le droit de l'essuyer avec un chiffon, mais il n'aura pas le droit de laver donc cette couverture avec de l'eau, ni même de verser de l'eau dessus. Car l'interdiction de laver l'habit le Shabbat n'existe non seulement lorsqu'il le frotte avec de l'eau et des détergents, mais même s'il verse simplement de l'eau dessus. Haïtash el or, si cette couverture ou ce coussin était en cuir, noten aleha maïm, il peut verser de l'eau dessus sur cette saleté, achetichle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Nous voyons donc que l'interdiction de laver n'existe pas pour la peau ou le cuir, car si elle existait, il aurait été interdit de verser de l'eau dessus, de même qu'il est interdit de verser de l'eau sur du tissu. Donc, de la Mishnah dans Maseret Shabbat, nous voyons que le cuir n'est pas susceptible d'être lavé comme un habit. En tout cas, laver le cuir n'est pas considéré comme laver un habit. Si c'est ainsi, pourquoi si le sang d'un korban khatat gicle sur du cuir, il faut le laver, alors que le pasouk parle d'un habit et de kibous, qui n'existe que pour l'habit ou le tissu? La Gemara répond à Amar Abaye, la kashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux mishnayot. Ha, cette mishnah dans Maseret Shabbat, Rabbanan suit l'opinion des Chachamim, tandis que la Mishnah chez nous, dans Masechet Zvachim, Acherim suit l'opinion de Acherim. D'Etania, car il est enseigné dans une braïta concernant l'obligation de laver l'habit sur lequel a giclé du sang d'un korban khatat, Habeged v'asak, l'habit en tissu ou l'habit en toile grossière qui est confectionné avec du poil de chèvre, Mechabso, il le lave si du sang a giclé dessus. Hakli v'aor, tandis qu'un ustensile ou la peau, le cuir, Megaroro, il peut se contenter de le gratter lorsque le sang a coagulé. Acherim omrim, Habeged ve'asak ve'ahor, l'habit en tissu et l'habit en toile grossière confectionné avec du poil de chèvre et le cuir, Mechabso, il le lave. Ve'akli, tandis que l'ustensile, en métal par exemple, Megaroro, il peut se contenter de le gratter lorsque le sang a coagulé. Nous voyons donc que les Chachamim considèrent que le kibous, lavage de l'habit, ne s'applique pas pour le cuir, tandis que selon Acherim, le lavage s'applique aussi pour le cuir. Donc notre Mishnah suit l'opinion de Acherim, tandis que la Mishnah dans Maseret Shabbat suit l'opinion des Chachamim. Keman Azla, selon qui s'applique l'enseignement suivant, Had Amar Rav Chia Bar Ashi, Zimnin Sagin Hava Kaimna Kameh de Rav, j'étais beaucoup de fois devant Rav, il m'est arrivé beaucoup de fois, lorsque ses chaussures étaient sales, de les tremper dans de l'eau en les remuant. Kemam, selon qui va donc cet enseignement, Kerabanan, cet enseignement suit l'opinion des Chachamim qui disent que le lavage de l'habit ne s'applique pas pour le cuir. C'est pour cela qu'il était permis de tremper les chaussures dans l'eau. Alakmar demande à Marrava, Umi Ika le Manda Amar or Lav Bar Kibusu, existe-t-il un avis selon lequel le cuir n'est pas lavable comme un habit? D'active, pourtant, le pasouk dit dans Vaikra Yud Gimel concernant la lèpre de l'habit, va beged o acheti o aerev, et l'habit en tissu, ou la chaîne, ou la trame, o kol keli haor, ou tout ustensile en cuir, donc tout habit en cuir, acher techabes, que tu laveras. Apparemment, le principe de laver l'habit s'applique aussi pour le cuir, comme le dit clairement le pasouk. Lagma répond, et là, Amarava, plutôt dit Rava, kra ou matnitin, le pasouk concernant la lèpre de l'habit et notre Mishnah Berakim parle de cuir mou qui lui est susceptible d'être lavé comme un habit. Et sur ce point, tout le monde est d'accord. Qui pligait? Dans quel cas discutent les Chachamim et Acherim, Bekashim, lorsqu'il s'agit de cuir dur? Selon les Chachamim, le cuir dur n'est pas susceptible d'être lavé, tandis que selon Acherim, même le cuir dur est susceptible d'être lavé. Alors la Gemara demande, Veha Amar Rav Chia. Pourtant, Rav Chia dit, Zimnin, Sagin, Hava, Kaimna, Kameh de Rav, j'étais plusieurs fois devant Rav, Vesharchichele, Mesaneh, Bemaim, et il m'est arrivé plusieurs fois lorsque ses chaussures étaient sales, je les ai trempées dans l'eau en les remuant. Comment se fait-il que cela était permis? Donc, ma réponse, Bekashim, il s'agissait de chaussures en cuir dur, ou Kerabanan, et ce, selon l'opinion des Rabanan, qui disent que le principe de laver l'habit ne s'applique pas pour le cuir dur. Hadar Amar Rava, Rava s'est ravisé. Et il a dit, lav miltahi de amre, c'est faux ce que j'ai dit, que neku nimale lekra, peut-on dire, concernant le pasouk, d'ikri ktivan, que lorsque le pasouk parle du cuir berakim, ktivan, il s'agit de cuir mou et non pas de cuir dur, mi lo askinan, ne peut-il pas s'agir bichli achsalgia habaim mimdinatayam, d'ustensiles en cuir dur qui proviennent d'outre-mer, vekamar rachamana, et akadosh baruch hu, donc la Torah dit, nive ekibus, quand même, ce type d'ustensile ou d'habit nécessite un lavage lorsqu'il est frappé de lèpre, comme c'est expliqué dans le pasouk. Autrement dit, comment peut-on dire que le pasouk qui parle de cuir sans précision parle uniquement de cuir mou et non pas de cuir dur? Et là, Marava, plutôt Rava dit, ça rate en ce qui concerne la lèpre, qui van demigoufe kaparra, puisqu'elle se développe dans le cuir lui-même, mechalchelale, elle le ramollit, ou mashvela rach, et donc elle le rend mou. Donc, c'est-à-dire, même si à l'origine il s'agit d'un habit en cuir dur, puisqu'il est frappé de la lèpre, celle-ci le ramollit. Par conséquent, le kibous, lavage de l'habit, pourra s'appliquer aussi pour ce cuir. Mais en général, le cuir dur n'est pas susceptible d'être lavé. Amar Rava, ikashali, si j'ai une question sur cette interprétation, hakashali, c'est ceci que j'ai comme difficulté.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadedalet Amudbet. Karim uksatot derakiminu, les coussins et les couvertures qui en général sont en cuir mou, utnan, et quand même il est enseigné à leur sujet dans Masechet Shabbat Daf Kuf Membet Amudbet, c'est la Mishnah que nous avons vue précédemment, Haïta shel or, si le coussin en question était en cuir, noten aleha maim achetichle, il peut verser de l'eau dessus sur cette saleté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si le principe du lavage de l'habit s'applique pour le cuir mou, comment se fait-il qu'il soit permis de verser de l'eau sur ce cuir mou? Et là, Marava, plutôt dit Rava comme réponse, kol kibus de letle kiskus, tout lavage d'habit où il n'y a pas de frottement, donc lorsqu'il frotte une partie de l'habit sur l'autre pour faire disparaître la saleté, l'oshme kibus, le terme de kibus, lavage de l'habit, ne s'applique pas dessus. Donc en fait, ce qui est interdit le Shabbat, c'est de laver le cuir donc en le frottant, mais en versant de l'eau dessus pour faire disparaître la saleté, il n'y a pas d'interdiction. Et ce, même s'il s'agit d'un cuir mou. Dans notre Mishnah, qui parle de laver le cuir sur lequel a giclé le sang, il s'agit de laver le cuir en frottant donc une partie du cuir sur l'autre. Selon les Chachamim, il ne s'agit que de cuir mou, tandis que selon Acherim, il peut s'agir aussi de cuir dur. Et comme le précise le Biur Halakha dans Siman Shinbet Seiftet, lorsque Rava parle de frotter, il s'agit non seulement de frotter une partie de l'habit sur l'autre, mais aussi le fait de frotter, par exemple, avec une brosse ou autre. Ce qui peut s'appliquer aussi sur le cuir dur. Vehade Amar Ravchia Barashi. Et en ce qui concerne ce qu'a dit Ravchia, fils de Ravashi, Zimnin Sagin Hava Kaimna Kamederav, j'étais plusieurs fois devant Rav, Veshachichele Mesaneh Bemaya, et lorsque ses chaussures étaient sales, je les ai trempés dans de l'eau en les remuant. Nous pouvons constater Shirshur In, en les remuant dans l'eau, oui, Aval Kibus, mais le lavage en frottant ses chaussures, l'eau, non, il ne l'a pas fait. Il considérait donc que c'était interdit. Alors là-dessus, Iberakim, s'il s'agissait de cuir mou ou que d'ivrei hakol, ceci va selon tout le monde, même selon les Chachamim. C'est pour cela qu'il est permis de tremper le cuir dans l'eau, même s'il s'agit de cuir mou, mais il sera interdit de le frotter. Ibekashim, et s'il s'agit de cuir dur, ou Kacherim, donc cet enseignement suit l'opinion de Acherim, qui disent qu'il est interdit de laver le cuir dur en le frottant, car selon eux, le lavage de l'habit existe aussi pour le cuir dur, comme nous l'avons expliqué précédemment, et c'est pour cela qu'il est uniquement permis de le tremper dans l'eau. Alors, la Gemara demande, si c'est ainsi, Begadnami, pour l'habit aussi, il devrait être permis de tremper l'habit sur lequel il y a une saleté dans l'eau pour faire disparaître la saleté. Pourquoi est-ce que la Mishnah le permet uniquement pour le cuir? La Gemara répond, Beged, en ce qui concerne l'habit en tissu, Shriato Zeu Kibuso, le fait de le tremper dans l'eau, c'est son lavage. Donc il est interdit même de le tremper dans l'eau, et c'est cela la différence fondamentale entre le tissu et le cuir. C'est-à-dire, même si nous admettons que le lavage existe soit pour le tissu, soit pour le cuir, cependant, pour l'habit, le lavage existe même en le trempant uniquement dans l'eau, tandis que pour le cuir, l'interdiction de le laver n'existe que si on le frotte. Voir le Avnei Nezer dans le Egletal sur la catégorie de travail interdite le Shabbat qui consiste à blanchir la laine, melaben, qui explique longuement ce passage. Rava l'etame, Rava suit sa propre opinion d'Amar Rava, car Rava dit Zarak Sudar Lemaim, celui qui jette un foulard dans l'eau, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé le Shabbat. Zarak Pishtan Lamaim, s'il a jeté des graines de lin dans l'eau, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé le Shabbat. Alors la Gemara demande Bishlama Sudar, on comprend bien encore en ce qui concerne le foulard Avid Kibous, en le jetant dans l'eau, donc en le trempant dans l'eau, il a transgressé l'interdiction de laver la bile au Shabbat, comme nous l'avons expliqué. Et là, Zera Pishtan, mais en ce qui concerne les graines de lin, Maïtahama, pourquoi a-t-il transgressé le Shabbat en les mettant dans l'eau? Vechitema, si tu veux me dire Mishum de Mekadar, car en les mettant dans l'eau, elles risquent de pousser. Yachi, si c'est ainsi, Chiteve Sarenami, même s'il s'agit de graines de blé ou d'orge, il transgresse la même interdiction. Pourquoi est-ce que cette interdiction n'existe que pour les graines de lin? L'Agma répond, Hanach, cela, c'est-à-dire les graines de lin, Itlehu Rire, sécrète un espèce de liquide visqueux qui fait en sorte qu'il se colle, ce qui n'est pas le cas pour les graines de blé et d'orge. L'Agma demande, Yachi, si c'est ainsi, Shlachim Nami, les peaux aussi, c'est-à-dire même en trempant les peaux dans de l'eau, qui eux aussi sécrètent un espèce de liquide visqueux, qui fait en sorte qu'il se colle, il devrait donc être interdit aussi de mettre des peaux dans de l'eau. L'Agma répond, Hatam, là-bas, en ce qui concerne les graines de lin, lorsqu'il les met dans l'eau, et elles sécrètent donc un espèce de liquide visqueux, car vidlisha, il transgresse l'interdiction de pétrir, car elles s'agglutinent, ce qui n'est pas le cas pour les peaux, où l'interdiction de pétrir n'existe pas pour les peaux. En effet, l'interdiction de pétrir n'existe que pour les produits de la terre. En tout cas, nous avons vu dans cet enseignement de Rava que le fait de tremper un tissu dans l'eau est une transgression de l'interdiction du Shabbat de laver la bille. Darash Rava, Rava a fait un discours public en disant « Mutar lechabes min al beShabbat » il est permis de laver une chaussure le Shabbat en la frottant dans l'eau. Amar le Rav Papa le Rava, Rav Papa a posé la question suivante à Rava « Behamar Rav Chia bar Ashi » Zimnin Sagin Ava Kaimna Kamed Rav, j'étais plusieurs fois devant Rav, Vesharchichele Mesane Bemaya, et lorsque ses chaussures étaient sales, j'ai trempé ses chaussures dans l'eau en les remuant. Nous pouvons constater, Shirchur, les remuer dans l'eau, in oui, c'est permis de le faire, Aval Kibous, mais les laver en les frottant l'eau, non, il est interdit de le faire. Pourquoi dis-tu donc publiquement qu'il est permis de laver les chaussures le Shabbat en les frottant? Hadar Oki Rava Amora Ale. Rava a à nouveau mis en place un interprète pour faire un discours, Vedarash, et il a fait le discours suivant. Dvarim shamarti lifnechem, ce que je vous ai dit en ce qui concerne le lavage des chaussures, taout hem beadi, c'est une erreur que j'avais. Beram, mais en vérité, kachamru, c'est ainsi que les chachamim ont dit, shirchur, le fait de remuer les chaussures dans l'eau, moutar, il est permis de le faire, kibous, mais les laver en les frottant, assour, il est interdit de le faire. Car nous pouvons estimer que les chaussures sont en cuir mou, il est donc interdit de les laver. Voir cependant le Biur Halakha qui explique longuement ce passage dans Siman Shinbet Seif Tet. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Hakibus Bemakom Kadosh, le lavage de l'habit sur lequel a giclé le sang du Korban Khatat doit s'effectuer dans un lieu sacré, donc dans la cour du sanctuaire. La Gemara demande Menan Emile, d'où sait-on ces choses-ci, que le lavage de l'habit doit s'effectuer dans la cour du sanctuaire? La Gemara répond de Tanoura Banan, car nos Chachamim ont enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikravav concernant le lavage de l'habit sur lequel a giclé le sang du Korban Khatat. Le pasouk dit Techabes Bemakom Kadosh, tu le laveras dans un lieu sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Donc le pasouk dit clairement que le lavage de l'habit doit s'effectuer dans la cour du sanctuaire. Alors la braïta demande Shvirat Klicheres Minaïn, d'où sait-on que le fait de briser l'ustensile d'argile qui a servi à cuire la viande d'un sacrifice, donc qui doit s'effectuer lui aussi dans la cour du sanctuaire. La Braïta répond, Tamoud Lomar, c'est pour cela que le Pasouk dit dans le même paragraphe, immédiatement après le lavage de l'habit, « Ukhli cheres asher tevu shalbo yishaver » l'ustensile en argile dans lequel tu cuiras la viande d'un sacrifice sera brisé. Donc puisqu'il est écrit immédiatement après la loi concernant le lavage de l'habit qui doit s'effectuer dans le lieu sacré, nous pouvons comprendre que le fait de briser cet ustensile d'argile doit aussi s'effectuer dans un lieu sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Merika ou shtifa beklin echochet, le fait de laver et frotter les ustensiles de cuivre qui ont servi à cuire la viande de sacrifice, minaïn, d'où sait-on que ce lavage doit s'effectuer aussi dans la cour du sanctuaire? La Braïta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, immédiatement après qu'il enseigne qu'il faut briser l'ustensile d'argile qui a servi à cuire la viande des sacrifices, Vim Bikli ne Khoshet Bouchala, Umurak Veshutaf Bamaim, et si la viande du sacrifice a été cuite dans un ustensile en cuivre, il faudra le laver et le frotter dans de l'eau. Nous pouvons comprendre, par la juxtaposition de ces psukim, que le lavage de l'ustensile de cuivre doit aussi s'effectuer dans un lieu sacré, donc dans la cour du sanctuaire. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Zechomer Bechatat », etc. Ceci, le fait qu'il faut laver l'habit sur lequel le sang a giclé, et ce qu'il y a de plus strict en ce qui concerne les lois de l'offrande du Korban Chatat par rapport aux lois des offrandes des autres sacrifices d'une sainteté suprême. Alors la Gemara demande de tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lois plus strictes en ce qui concerne le Korban Chatat par rapport à celles des autres sacrifices? Daïka, pourtant, il y a le fait que « Shenichnas Dama » Lifnaï velifnim, que des fois, pour certains korban khatat, son sang est rentré à l'intérieur du sanctuaire pour être aspergé, ce qui n'est pas le cas pour les autres sacrifices. La Gemara répond, bechataot achitzonot, la Mishnah parle de korban khatat dont le sang est aspergé à l'extérieur, donc son sang lui aussi n'est pas destiné à rentrer dans le sanctuaire. La Gemara demande, mais il y a quand même une loi plus stricte en ce qui concerne le korban khatat, she'im nichnas dama lifnim, que si on a fait rentrer son sang à l'intérieur du sanctuaire, psoula, le sacrifice est invalidé, ce qui n'est pas le cas pour les autres sacrifices. La Gemara répond que Rabbi Akiva, la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Akiva, de Amar qui dit « Kol damim shenichnesu lahechal lechaper » le sang de n'importe quel sacrifice qu'on a fait rentrer dans le sanctuaire pour être aspergé, psoula, le sacrifice est invalidé. Donc finalement, cette loi s'applique pour tous les autres sacrifices aussi. La Gemara demande « Pourtant il y a cela qui est plus strict, sheken mechaprim al chay bekritut » car l'offrande d'un korban khatat expie un péché sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, ce qui n'est pas le cas pour les autres sacrifices. La Gemara répond, Bechatat deshmiat kol, la Mishnah parle d'un korban khatat, par exemple celui offert pour celui qui a refusé de témoigner en prêtant un faux serment, il s'agit d'un péché qui n'est pas sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. La Gemara demande, Sheken teunar bamatanot, il y a pourtant le fait que le sang du korban khatat nécessite 4 applications, ce qui n'est pas le cas pour les autres sacrifices. La Gemara répond que Rabbi Ishmael, notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Ishmael, d'Amar qui dit Kol damim teunim arba matanot, le sang de tous les sacrifices nécessite 4 applications. En effet, selon Rabbi Ishmael, même s'il est vrai que le sang des sacrifices est aspergé sur 2 coins de l'autel, mais à chacun des coins, il y a 2 aspersions, un d'un côté et l'autre de l'autre côté. La Gemara demande à l'Arba Kranot, pourtant il y a cela, que le sang du Korban Khatat doit être appliqué sur 4 coins de l'autel, ce qui n'est pas le cas pour les autres sacrifices qui sont appliqués uniquement sur 2 coins. Alors la Gemara demande, Velitamer, selon toi qui pose cette question, Haïka Keren, pourtant il y a cela, que le sang du Korban Khatat est appliqué au coin de l'autel, tandis que le sang des autres sacrifices est appliqué dans la moitié inférieure de la paroi de l'autel. Et en plus, Haïka Etzba, il y a le fait que pour le Korban Khatat, le Kohen se sert de son doigt, alors que pour les autres sacrifices, le sang est giclé directement à partir de l'ustensile. Haïka Khuda. Et en plus, il y a cela que pour le Korban Khatat, il est appliqué, selon certains avis, le long de la pointe du coin, ce qui n'est pas le cas pour les autres sacrifices. Et là, plutôt, c'est cela qu'il faut dire. Chad mitre tlata chumre nakat. La Mishnah n'a mentionné qu'une seule des 2 ou 3 lois strictes qu'il y a concernant le Korban Khatat par rapport aux autres sacrifices. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Daf Tzadeh Dalet. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Tzadehe. Nous commençons Daf Tzadeh Dalet Amud Bet à la fin de la 13e ligne du bas de la page au début de la Mishnah. Donc, nouvelle Mishnah. Beged Sheatza Chutz Laklaim, un habit sur lequel du sang d'un korban khatat a giclé qui est sorti à l'extérieur des tentures, donc de la cour du sanctuaire. Nichnas, on le fait rentrer. Umechabso Bemakom Kadosh, et on le lave dans un endroit sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Nitma Chutz Laklaim, s'il est devenu impur en dehors des tentures, donc en dehors de la cour du sanctuaire, il est interdit de faire entrer quelque chose d'impur dans la cour du sanctuaire. Koro, il le déchire pour faire disparaître son impureté. Nichnas, on le fait entrer. Umechabso bemakom kadosh, et on le lave dans un endroit sacré à l'intérieur de la cour du sanctuaire. Kli cheres, un ustensile d'argile qui a servi à cuire la viande d'un sacrifice chez Atsachut Salaklaim, qui est sorti en dehors des tentures, donc de la cour du sanctuaire, Nichnas, on le fait rentrer, Veshovro Bemakom Kadosh, et on le brise dans un endroit sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Nitma Chutz Laklaim, s'il est devenu impur en dehors des tentures, donc en dehors de la cour du sanctuaire, et il est interdit de le faire rentrer, Nokvo, on le troue de manière à faire disparaître son impureté, Venichnas, et on le fait rentrer, Veshovro Bemakom Kadosh, et on le brise dans un endroit sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Kli Nechoshet, un ustensile en cuivre qui a servi à cuire la viande d'un sacrifice, Shiatza Chutz Laklaim, qui est sorti à l'extérieur des tentures, donc de la cour du sanctuaire, Michnas, on le fait rentrer, ou Morkov Shotfo Bemakom Kadosh, et on le lave et on le rince dans un lieu sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Nitma Chutz Laklaim, s'il est devenu impur à l'extérieur des tentures, donc de la cour du sanctuaire, il est donc interdit de le faire rentrer dans la cour du sanctuaire. Porto, il l'ébrèche, c'est-à-dire il ferait un trou assez grand pour que son impureté disparaisse, Venichnas, et on le fait rentrer, ou Morkov Veshotfo Bemakom Kadosh, et il le lave et il le rince dans un lieu sacré, donc dans la cour du sanctuaire. Nous avons vu dans la Mishnah que si l'habit sur lequel a giclé le sang d'Akorban Khatat est sorti de la cour du sanctuaire et il est devenu impur, on le déchire avant de le faire rentrer, car comme nous l'avons expliqué, il est interdit de faire rentrer quelque chose d'impur dans la cour du sanctuaire. En Matkifla, Ravina a objecté là-dessus, Koro, peut-il le déchirer? Pourtant, dans le pasouk dans Vaikravav, Beged Amarachamana, le pasouk employait le terme d'habit, donc c'est l'habit sur lequel a giclé le sang du Korban Khatat qu'il faut laver à l'intérieur du sanctuaire, et lorsqu'il est déchiré, Velav Begedhu, ce n'est plus un habit. Il est vrai qu'il pourrait le recoudre, cependant, s'il le faisait, il serait considéré comme étant un nouvel habit. Par conséquent, soit comme il semblerait des paroles de Tosfot, ce nouvel habit ne nécessiterait pas de lavage, car ce n'est plus l'habit sur lequel le sang a giclé, il s'agit d'un deuxième habit. Soit comme l'explique le Migdash David dans Siman Lamed Aleph, même si nous disons que cet habit réparé nécessite un lavage, cependant, puisqu'il s'agit d'un nouvel habit, il n'accomplirait pas ce commandement de laver l'habit sur l'habit d'origine. Finalement, il aurait donc annulé ce commandement positif. En tout cas, donc, la question se pose, comment peut-il le déchirer? Finalement, ce n'est plus un habit. L'Agma répond, il est vrai qu'il doit déchirer la majorité de l'habit pour qu'il perde son impureté. Cependant, il ne doit pas, et d'ailleurs il n'a pas le droit de déchirer l'habit entièrement, mais plutôt de Meshayer Be, Kedema Poret, il laisserait une partie non déchirée de l'habit qui correspondrait à la largeur d'un foulard qui sert à couvrir la tête. Ainsi, d'une part, cet habit a perdu son impureté, cependant, il est toujours considéré comme étant un habit qui peut devenir impur, et donc il accomplit ce commandement du lavage de cet habit. La Gemara demande, « Eni, ce n'est pas vrai, veha amar ravuna, concernant la loi selon laquelle l'habit perd son impureté si sa majorité est déchirée. » Loshanu, nous ne disons cela, c'est uniquement s'il n'a pas laissé une partie non déchirée de l'habit qui correspond à la largeur d'un foulard, aval shierba kedema poret, mais s'il a laissé une largeur équivalente à celle d'un foulard qui sert à couvrir la tête, chiburave, il est considéré comme étant attaché et il n'a pas perdu son impureté. Donc finalement, cela ne suffirait pas selon l'opinion de Ravuna.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.